Bonjour, bienvenue au collège Ernest Chalamel à Dieulfi. Nous sommes les élèves de 5e B et nous allons interviewer pour la web radio 3 membres de la LICRA. Bruno Darold, Claude Remy et Jean-Yves Mendez. Merci d'être venus jusqu'à nous, car vous venez de loin, vous venez de Romans, je crois. Nous allons vous poser plein de questions sur votre lutte contre les discriminations.
Bonjour, je m'appelle Yannis et je vais vous poser des questions sur la présentation générale de la LICRA. Tout d'abord, pouvez-vous vous présenter ?
Donc moi je suis Bruno Darold, j'habite à Romans et je suis membre de la LICRA, je suis militant depuis 2012.
Jean-Yves Mendez, j'habite Bourg-de-Péage, donc à côté de Romans, et je suis militant de la LICRA au début des années 90. Vous situez quand ? Je ne me souviens pas exactement.
Et Claude Remy, j'habite également à Romans, et je suis membre bénévole, comme la majorité des membres de la LICRA, depuis 2 ans seulement, c'est-à-dire depuis ma retraite.
Pouvez-vous nous présenter très rapidement la LICRA ?
Alors l'association LICRA, en fait, qui existe depuis 1927, hein, ça veut dire la Ligue internationale contre le racisme et l'antisémitisme. Donc c'est une association de type loi 1901 qui est constituée d'une 60aine d'antennes départementales.
Bah justement, pouvez-vous nous parler de la fondation de la LICRA ?
Ah, très bien, bah la fondation en fait, donc 1927, il faut faire un petit peu d'histoire. Ça a été créé suite à un procès dans lequel l'idée d'antisémitisme est ressortie. Donc on est en 1926 à Paris et un monsieur qui s'appelle Samuel Schwarzbach assassine un monsieur qui s'appelle monsieur Petliura. Il est arrêté par la police, donc Simon Schwarzbach, et il explique qu'il a assassiné cette personne, ce monsieur Petliura, parce que monsieur Petliura est, selon lui, responsable de l'assassinat de sa famille en ce qu'on appelle la Bessarabie, c'est une région aujourd'hui vers l'Ukraine. Il accuse donc monsieur Petliura d'avoir fomenté ce qu'on appelle des pogroms. Il y a un monsieur qui s'intéresse à cette histoire, c'est un monsieur qui est journaliste et qui mène une grande enquête pendant tout l'été 1926 et qui revient avec beaucoup de preuves qu'en fait, effectivement, il y a des assassinats dans cette région de l'Europe sur des personnes juives. Et il y a donc un procès, beaucoup de témoignages sont faits qui attestent de ces crimes qui sont commis dans cette région. Beaucoup de gens décident de monter une association pour lutter contre les pogroms, contre ce que l'on appelle l'antisémitisme.
Pouvez-vous nous parler du fonctionnement de la LICRA, nombre de membres, dirigeants ?
Alors justement, ce que je disais tout à l'heure, hein, c'est une association dont le siège national est à Paris. Il y a un président qui est élu tous les 3 ans. On en change ou on n'en change pas. Et il y a avec également un secrétaire, un trésorier. Hein, c'est quelque chose de très sérieux. Et il y a des antennes départementales. Ce que je disais tout à l'heure, il y en a une 60aine en France. Et il y en a également 2 ou 3 à l'étranger. Et il y a à peu près, je pense, c'est difficile à dire, mais à peu près 3000 adhérents actuellement en France.
Et du coup, c'est qui les dirigeants principaux ?
Alors actuellement, c'est monsieur Mario Stasi, qui est le président de la LICRA au niveau national. C'est un monsieur qui est avocat et qui, à titre bénévole, exerce la fonction de président de l'association.
Sur quel territoire intervient la LICRA ?
Alors ben, en fait, elle est divisée, la LICRA, en sections départementales. Et ce qui fait qu'en fait, chaque département... Nous, par exemple, si on intervient aujourd'hui ici à Dieulfi, c'est parce que nous sommes la LICRA Drôme, d'accord ? Si c'était... c'est pas la LICRA Isère qui va venir ici. En fait, on s'est divisé par département. Le problème, c'est qu'il n'y a pas des sections départementales dans tous les départements. Donc nous, on intervient, par exemple, également dans l'Ardèche.
Bonjour, je m'appelle Léonie. Je vais vous poser quelques questions sur les missions de la LICRA. Quelles sont vos principales missions ?
Alors les missions, il y a d'abord une mission, nous sommes dans la commission éducation. Notre mission, c'est par exemple ce qu'on fait aujourd'hui, c'est de venir auprès des scolaires, surtout dans les collèges et les lycées, pour échanger avec les collégiens ou les lycéens sur le thème du racisme, de l'antisémitisme, des discriminations. Hein, ça, c'est, on va dire, c'est la mission éducation. Jean-Yves, tu peux nous parler de la mission histoire et
mémoire.
Et mémoire.
On fait référence à ce qui était l'histoire de notre pays pour expliquer ce qu'ont été les actes de racisme et d'antisémitisme à une période donnée. Il y a une chose que je tenais à préciser, on intervient non seulement auprès des lycées et des collèges, mais auprès du milieu sportif. Hein, les jeunes en club de rugby et autres. Hein. Donc voilà.
Tout à fait. Il y a aussi une mission juridique. Il y a une commission au niveau national. Et nous en avons une, nous, au niveau départemental. C'est-à-dire, c'est l'aide et l'écoute des victimes ou des témoins de propos, d'actes racistes ou de discrimination. Hein, il y a une centaine d'avocats bénévoles qui travaillent pour la LICRA au niveau national et qui vont aider si une personne a été victime de propos de propos racistes ou de discrimination, qui vont les aider, les accompagner dans les démarches juridiques auprès de la police ou de la gendarmerie, et puis ensuite, en cas de procès, qui vont les accompagner pendant toute la durée du procès.
En quoi vos missions ont-elles évolué au fil du temps ?
Justement, au départ, il y avait surtout une lutte contre l'antisémitisme. Et puis, on a rajouté le terme de racisme. Alors, c'est très discuté, parce que, comme vous devez le savoir, la notion de race, médicalement parlant, n'existe pas. On a quand même gardé le terme d'antiracisme, justement pour lutter contre cette notion de race qui n'est pas exact, mais pour lutter contre ça. Donc maintenant, on intervient contre toutes les discriminations, quelles qu'elles soient, religieuses ou non religieuses, à caractère, entre guillemets, racial, même si on peut discuter de l'absence de race.
Ce qu'on pourrait rajouter également, sur quel terrain on va, donc on a parlé de l'éducation, ainsi que sur le travail de mémoire et sur l'aide aux victimes. Et il y a également un terrain sur lequel on intervient, alors pas personnellement, mais il y a des gens dont c'est le travail à la LICRA, soit même s'ils sont bénévoles, c'est sur Internet en fait. Hein, ils luttent contre le racisme. Alors soit la LICRA intervient auprès, par exemple, des entreprises comme Google ou Facebook ou Twitter pour demander, par exemple, de supprimer des contenus racistes. Et puis, il y a également une cellule de ce qu'on va appeler e-riposte, c'est-à-dire que c'est pour lutter contre les personnes ou les associations qui envoient des messages racistes ou des idées racistes contre certains groupes ou certaines personnes. Donc, il y a des gens qui pianotent quand ils peuvent sur leur ordinateur ou sur leur smartphone pour lutter contre ces propos.
Quelles sont les missions que vous effectuez le plus souvent ?
Il y a beaucoup d'accueil de victimes. Hein. Il y a eu en 2017 2600 personnes, je crois. C'est à peu près le chiffre qu'on a. À peu près 2600 personnes qui sont venues auprès de la LICRA pour être soutenues dans leur démarche de plainte et auprès de la justice, en fait. On a quelques chiffres, là. Le signalement de contenu haineux reçu chaque année par la LICRA, par exemple, c'est 1700. Il y a aussi de la formation auprès des forces de l'ordre ou auprès des avocats.
Bonjour, je m'appelle Alessandro et je vais vous poser quelques questions sur les actions de la LICRA pour lutter contre les discriminations racistes. Pour vous, qu'est-ce qu'une discrimination raciste ?
En fait, c'est pas simplement pour nous, je crois que c'est devant la loi en fait, hein, que ça se passe. Hein. C'est pas nous, à la LICRA, qui sommes bénévoles, qui décidons qu'une discrimination est raciste ou non. Hein, c'est le code pénal qui le dit. Hein. C'est inscrit dans notre Constitution. C'est même inscrit pas simplement dans la Constitution de la République française. C'est écrit dans la Déclaration universelle des droits de l'homme, hein, qui a été faite en décembre 1948, donc ça fait 70 ans. Donc une discrimination, ça peut être... Il y a plein d'exemples de discrimination, mais c'est la loi qui le dit. Donc là-dessus, je peux vous parler de l'article, j'avais préparé le papier, parce que je pensais bien qu'il y aurait cette question. C'est l'article 225.2 du Code pénal. Hein, il y en a 8. Hein. La discrimination, ça peut être à refuser la fourniture d'un bien ou d'un service à une personne du fait de son appartenance supposée à un groupe ethnique ou religieux, par exemple. Ça peut être entraver l'exercice, ça peut être empêcher quelqu'un de faire, d'ouvrir un magasin. De refuser de louer à une personne un appartement ou une maison. De refuser de travailler avec une entreprise sous prétexte qu'il y aurait des gens qui seraient de telle religion ou de telle origine dans cette entreprise. Hein, ça, c'est des exemples de discrimination.
Comment se passent vos interventions généralement ? Sont-elles efficaces ?
L'efficacité, ça, on ne pourra jamais vraiment le savoir. C'est vrai qu'on est bien reçu. Après, l'idée, c'est de créer un peu, de faire une discussion, d'échanger. Hein. On n'est pas là pour donner des leçons de morale à la LICRA, hein, contrairement à ce que peuvent des fois penser certaines personnes. Nous, on est là, dans nos missions auprès des jeunes en particulier, pour créer du lien, pour créer de l'échange, pour que les gens nous parlent de leurs expériences, de ce qu'ils entendent chez eux. C'est pas pour faire de la dénonciation, hein, des choses comme ça. C'est simplement pour dire ce qu'ils ont entendu, qu'ils connaissent quelque chose, ou une histoire de famille, qu'ils souffrent d'une blague répétitive dans la classe. C'est difficile de savoir l'efficacité que ça a. Mais nous, on croit que ça a une petite efficacité. Parce que peut-être que dans nos parcours de vie, des fois, on a vu que... Quand des adultes venaient nous parler, même des gens qui n'étaient pas comme nos parents ou comme les gens de notre famille, ça nous amenait quelque chose de... quand même, ça nous construisait, ça nous amenait des éléments en plus pour essayer de comprendre le monde et pour accepter les autres comme ils sont, en fait.
Comment luttez-vous contre les discriminations racistes ? Par quels moyens ?
Nous, à la LICRA, il y a un numéro de téléphone à la section Drôme. On peut appeler, on a une personne qui va recevoir l'appel, qui va d'abord mener une petite enquête, voir si qui est cette personne, est-ce que c'est vrai, est-ce que c'est pas quelqu'un qui imagine quelque chose. Après, on va l'encourager, si on voit qu'il y a vraiment quelque chose, une vraie souffrance et une vraie discrimination, ben on va essayer de l'encourager à trouver des témoins, l'encourager. L'aider dans ses démarches, ce qu'on a dit tout à l'heure, dans ses démarches auprès de la police ou auprès de la justice.
Je voudrais juste se rajouter qu'on lutte énormément aussi par l'éducation, c'est-à-dire qu'on essaye de faire de la prophylaxie, on essaye d'expliquer aux gens que le racisme, c'est mauvais,
sans fondement.
Que la race n'existe pas, il y a une race humaine seulement. Et ça, c'est très important. C'est aussi important d'être en amont.
Quels sont les endroits où vous intervenez plus souvent contre les discriminations racistes ?
Alors, je ne pourrais pas dire où est-ce qu'on intervient le plus souvent, mais après, je peux donner peut-être un exemple fort qu'on a eu à traiter à la section de la Drôme il y a 3 ans. Ça s'est fait sur plusieurs années parce qu'en fait, c'est un groupe de gens, de jeunes gens, je vais dire, hein, des gens qui avaient entre 25 et 30 ans, des amis. Ils étaient 7 ou 8. Et ils avaient réservé une table dans une boîte de nuit pour fêter un anniversaire. Et lorsqu'ils sont arrivés à la boîte de nuit dans la région de Valence, l'accès leur a été refusé au prétexte, ce qu'ont dit les personnes à l'entrée, qu'il y avait trop de maghrébins dans le groupe. Donc ils ont été très choqués. Ils ont essayé quand même une des personnes a voulu parler avec la direction et le directeur, le patron de l'établissement a confirmé qu'effectivement, il ne voulait pas que ce groupe rentre parce qu'il y avait trop de maghrébins sur le groupe. Donc ils étaient bien déçus et très choqués, bien sûr, et ils sont repartis. Et puis, ils ont, au bout de quelques jours, en discutant à droite, à gauche, quelqu'un leur a conseillé d'écrire une lettre au, au procureur de la République et de contacter également la LICRA, ce qui a été fait. Et nous, nous les avons accompagnés donc, dans leur plainte. Ça n'a pas été facile pour eux. Il a fallu qu'ils aillent à la, au commissariat de police. Ensuite, il y, y a eu un procès. Et finalement, ils ont gagné le procès. Le, la personne, le patron de cette boîte de nuit a été condamné, même en appel. C'est-à-dire qu'il a fait appel pour dire qu'une fois que la condamnation avait été faite, il a dit « mais non, je ne suis pas coupable ». Et derrière, il y a eu un deuxième jugement qui a confirmé qu'il était bien coupable de discrimination. Et donc, il a été condamné à une peine de prison avec sursis et à une amende. Il y a des versements de dommages d'intérêt. Mais ils ont quand même... C'est pas pour l'argent qu'ils ont fait ça, bien sûr. Hein. C'est pour rendre justice. Ils avaient été discriminés sur le territoire français. Parce que ils avaient une... des origines, peut-être, ou une couleur de peau qui ne convenait pas à certaines personnes.
Ce qui tient du préjugé. Mon collègue a bien précisé que on avait dit maghrébin. Non, maghrébin, avant tout, ils peuvent être français. On ne détermine pas au faciès l'appartenance de, à un groupe. Il n'y a pas besoin d'y faire référence. Hein. Sur ce territoire, on est libre et égaux de droit. Alors, effectivement, c'est contestable. Et jamais avoir de préjugés, ça permet de vivre beaucoup plus librement et en bonne entente avec l'ensemble hein, de ce qu'est la population de notre pays.
Je vais enfoncer le clou. Les actes racistes, non seulement sont une pensée, on peut penser, mais c'est complètement illégal.
C'est un délit.
Je le re-redis très fort, c'est contre la loi, on n'a pas le droit de le faire.
Ça n'est pas une opinion.
C'est pas une opinion.
Le racisme, contrairement à ce que peuvent dire certaines personnes, ça n'est pas une opinion, c'est un délit.
Alors, voilà.
En France et en Europe.
Bonjour, je m'appelle Ambre et je vais vous poser des questions sur les actions de la LICRA pour lutter contre les discriminations antisémites. Pour vous, qu'est-ce que c'est qu'une discrimination antisémite ?
Alors d'abord, qu'est-ce que c'est que l'antisémitisme, peut-être hein ? Parce que finalement, l'antisémitisme, c'est du racisme. Mais c'est du racisme contre un groupe bien spécifique. Hein ? Ça serait contre les Juifs. Et ça serait de dire que les Juifs, c'est pas simplement... c'est carrément une race. D'accord ? Donc, en fait, les discriminations contre les Juifs, c'est des discriminations comme contre toute personne. Mais c'est l'antisémitisme qui, lui, est quelque chose de bien spécifique. Hein. C'est un racisme bien spécifique contre les gens juifs. Mais sinon, les discriminations, comme je disais tout à l'heure, ça peut être tout et n'importe quoi. Enfin, je veux dire, ça peut être refuser une... un travail à une personne au prétexte qu'il a une étoile, ce qu'on appelle l'étoile de David autour du cou, ou parce qu'il n'a pas la couleur de peau qu'on aime. Voilà. Mais c'est... Il n'y a pas de... Enfin, à moins que tu vois quelque chose, Jean-Yves ou,
pour l'antisémitisme.
Pour les discriminations antisémites.
Oui, mais
c'est pareil.
N'importe comment, elles ne sont pas fondées, parce qu'il n'est pas écrit sur la figure ou de quelqu'un qu'il est juif de religion ou d'origine. Et puis on n'a pas à commettre c'est pas possible. On en a vu les effets hein, tout au long des siècles, à savoir que les juifs ont été désignés comme peuple déicide, à savoir que on disait qu'ils avaient porté atteinte au Christ, hein, le fondateur de la religion chrétienne. Partant de là, il y a eu des exactions. Vous avez sûrement entendu parler, entre autres, de l'Inquisition, où juifs, mais aussi musulmans, ont été chassés d'Espagne. Et ensuite, ça aboutit à ce que vous avez lu, entendu... Les camps d'extermination, pas seulement les camps de concentration, c'est-à-dire que spécifiquement pour les juifs, on avait créé des camps tels qu'Auschwitz, Birkenau et autres, où on les destinait à une mort certaine. Il n'y avait pas d'échappatoire. Hein. On les envoyait là pour les exterminer, au même titre que les Tziganes ou autres. Mais là, c'est un acte antisémite dirigé contre une population qui a une culture juive ou une religion juive. Voilà.
Pouvez-vous nous raconter une de vos actions marquantes contre l'antisémitisme ?
Contre l'antisémitisme ?
Il y a eu un cas il y a de nombreuses années, hein, mais l'évoquer franchement, c'était deux personnes qui avaient pour voisine quelqu'un d'origine juive et qui à un moment se sont déchaînées contre cette personne parce que, à la limite, elle dérangeait peut-être de par le voisinage, mais elles se sont acharnées sur cette personne parce qu'elle la connaissait comme d'identité juive. Donc il a fallu intervenir et défendre, hein, et faire en sorte que les deux autres personnes arrêtent leurs attaques. Hein, mais ça, effectivement, il y en a eu. Il y en a peut-être moins que des actes contre le racisme en général.
Après, c'est aussi au quotidien. C'est, même si on n'est pas interpellé en tant que membre de la LICRA, on peut tous constater tous les jours, enfin, dans la rue, au collège pour vous, dans votre association sportive, un peu de partout, dans la famille, avec des amis, enfin, ou dans des lieux publics, entendre des propos ou voir des regards. Ça peut être aussi ça, des fois, simplement. Hein, c'est des choses plus sournoises, en fait. On va regarder d'une certaine façon. On va faire un petit jeu de mots en ricanant. C'est des fois ça, le racisme. C'est toute la différence entre le racisme et l'humour, quoi. Hein, faire une blague entre copains, c'est une chose. Mais faire des allusions, lever les yeux au ciel quand on voit quelqu'un... se pincer le nez, se boucher le nez quand on voit quelqu'un qui passe. Et ça peut être à l'encontre de toutes sortes de personnes. Hein, c'est pas simplement... ça peut être aussi des petites insultes ou des grosses insultes. Ça peut être aussi ça, hein, la lutte contre le racisme. Et c'est pas nécessairement des discriminations. Parce que le racisme, il s'exprime de trois façons. Il s'exprime... Enfin, le racisme et donc l'antisémitisme, hein, bien sûr. Mais toutes les formes de racisme s'expriment par l'insulte, par la voix orale. Elles s'expriment aussi par la violence, les coups portés, voire ce que je vous ai raconté au début, l'assassinat ou le crime. Et aussi, donc, par les discriminations. Hein. Donc, on lutte vraiment contre ces trois formes de racisme.
Alors bonjour, moi je m'appelle Jade et je vais vous poser des questions sur le thème s'engager dans la LICRA. Comment peut-on s'engager dans la LICRA ? Sous quelle forme ?
En fait, tout simplement en devenant adhérent. Ça, c'est la première chose. Il faut... ce que j'ai fait, moi, j'ai rencontré quelqu'un qui y était. Je parle de mon expérience. Et en fait, voilà, c'était une période où il y a beaucoup de choses qui me perturbaient, qui me choquaient dans la société française. Et c'est un thème auquel j'étais sensible de longue date. Et les personnes m'ont dit un peu comment ça fonctionnait. J'ai dit, pourquoi pas. Et puis voilà, on y va. On va d'abord à une réunion, mais on peut le faire à la LICRA, on peut le faire auprès d'autres associations. Il n'y a pas que la LICRA, il y a la Ligue des droits de l'homme, il y a SOS Racisme, il y a le MRAP, le mouvement contre le racisme et pour l'amitié entre les peuples. Ce sont quatre associations qui luttent contre le racisme et contre tout un tas de formes de discrimination. En fait, c'est simplement pousser une porte, hein, aller voir une association et puis voir si ça vous intéresse, poser des questions. Et éventuellement, si c'est une cause qui vous intéresse, que vous trouvez importante, et ben vous vous engagez et puis participez à des manifestations, tenir une table lors d'un... Enfin, voilà. Faire plein de...
La difficulté pour certaines régions, c'est qu'il n'y a pas d'antenne. Excuse-moi. Il n'y a pas d'antenne.